Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. Dans cet épisode, on va parler élection présidentielle et social media en compagnie de Clémence Hutinet de VisiBrain. C'était dimanche 10 avril 2022, donc premier tour de l'élection présidentielle qui a opposé plusieurs candidats. Puis finalement sont sortis vainqueurs du premier tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors il y avait plus d'une dizaine de candidats hein, sur ce premier tour avec une lutte assez farouche en social media. Ces candidats avaient leurs équipes hein, qui étaient très 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 actives et puis donc qui ont animé des débats, qui ont été aussi nourris par les internautes hein, qui spontanément ont pris la parole pour dire un petit peu ce qu'ils pensaient de ces candidats, de leur programme ou de leur désintérêt pour cette élection et d'exprimer finalement une abstention. Alors pour en parler, j'ai invité dans cet épisode Clémence Hutinet. Clémence Hutinet travaille chez VisiBrain et VisiBrain a sorti justement une étude qui dresse un bilan de ce qui s'est dit en social media durant ce premier tour de l'élection. Alors on a évoqué avec elle plusieurs choses, quels sont les candidats qui ont le plus fait parler, quelle était la tonalité des messages, quelles étaient un peu les grandes tendances hein, de ce premier tour, de ce premier volet de l'élection. Alors je vais vous laisser écouter cette interview, donc on a eu l'occasion d'échanger pendant une vingtaine de minutes avec Clémence. Je vous laisse écouter nos échanges et ensuite je vous invite à regarder en bas de cet épisode pour aller découvrir le communiqué de presse complet avec la data et puis aussi à découvrir la plateforme VisiBrain. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve tout de suite après. Salut Clémence.
Salut Fabrice.
Eh bien écoute, je suis heureux vraiment de t'accueillir sur l'empreinte digitale, ça me fait vraiment très plaisir.
Eh bien merci à toi de m'avoir invité.
Bah écoute, c'est vraiment un grand plaisir encore une fois. Donc on va passer un petit moment avec Clémence, on va faire un débrief, on va refaire le match du premier tour. On va parler un petit peu de la data social media, qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, les chiffres qu'il faut retenir, les points marquants, et puis peut-être des perspectives pour la suite, on va voir. Alors, est-ce que déjà Clémence, je peux te laisser te présenter à nos auditeurs ?
Oui, donc je suis Clémence Hutinet et je suis Content Manager chez VisiBrain.
Super. Et tu peux nous parler de VisiBrain ?
Bien sûr, donc VisiBrain, c'est un logiciel de veille des réseaux sociaux ou alors logiciel de social listening, comme on peut l'appeler aussi.
Ok, alors social listening, alors peut-être que ça ne parle pas à tous nos auditeurs. Mm-hmm. Tu peux nous expliquer justement ce qu'est le social listening ?
Oui, donc c'est la veille des réseaux sociaux, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a tellement de messages qui circulent. Donc on est à plus d'un milliard de posts par jour sur les réseaux sociaux. C'est donc impossible de traiter toute cette data à main nue, d'où l'intérêt d'un outil. En fait, les outils permettent de tirer parti de cette masse d'informations pour pouvoir détecter des opportunités et des risques en termes de business pour les marques. Et l'intérêt d'un outil comme VisiBrain, ben, c'est d'avoir une très bonne couverture sur l'ensemble des réseaux sociaux et d'être alerté en temps réel dès qu'un signe faible est détecté sur votre marque. Donc par exemple, une opportunité ou un risque aussi, un influenceur qui prendrait la parole pour dire du bien ou au contraire des signaux plutôt négatifs, premiers signaux d'un bad buzz, donc d'être alerté en temps réel. Et c'est un outil puissant, mais qui ne néglige pas la simplicité d'utilisation, donc c'est très intuitif. Et on propose aussi un accompagnement sur mesure, donc des chargés de compte experts de la veille qui accompagnent les marques utilisatrices dans l'utilisation de l'outil.
Et on sait que l'écoute sociale, hein, de surveiller ce qui se dit sur la marque, ça peut être capital.
Exactement.
On a vu des bad buzz récents dans l'actualité. Alors certains sont restés dans nos mémoires, d'autres sont plus récents. Effectivement, l'écoute sociale, détecter les signaux faibles, comme tu dis. Concrètement, pour une marque, ce serait quoi le ratio entre le nombre de mentions réguliers sur la marque ? À quelle proportion il faut s'inquiéter ?
Alors, tout dépend des marques, puisqu'il y a des marques qui sont très régulièrement mentionnées sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à la SNCF qui est très mentionnée. Et il y a des marques qui le sont un peu moins, donc ça dépend vraiment. Mais l'idée, en fait, pour la marque, c'est de calculer à peu près son volume de mentions quotidien, moyen. Et quand ça dépasse vraiment beaucoup, c'est un signal faible. C'est qu'il y a sûrement quelque chose d'anormal qui est en train de se passer, soit positif, un emballement positif, soit un emballement plutôt au contraire négatif. Et dans ce cas, on parle d'un bad buzz.
Et dans ces cas-là, ça peut avoir des conséquences très très graves pour l'entreprise. Donc l'intérêt de l'outil, si on comprend bien, Clément, c'est d'être informé le premier pour pouvoir agir rapidement.
Exactement.
C'est vrai que dans le passé récent, on a vu quelques marques, je ne vais pas les citer pour ne pas les mettre mal à l'aise si elles écoutent le podcast, mais il y en a quelques-unes, effectivement, qui auraient peut-être gagné à avoir un outil de surveillance. Hein.
Tout à fait.
Ouais. Pour voir si des fois les oreilles ne sifflent pas parce que votre marque est très, très, très évoquée sur les réseaux sociaux. Alors, il y a certainement des personnes qui ont dû avoir les oreilles qui sifflent ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est les candidats à l'élection présidentielle.
Alors, exactement.
Visiblen a sorti un rapport sur les mentions des candidats durant le premier tour, en fait. Et la data était vraiment intéressante, donc on va faire le point avec Clémence. Déjà, est-ce que tu peux nous résumer, peut-être nous donner les trois chiffres les plus importants qu'on pourrait faire sortir de ce premier tour ?
Alors, le premier tour en trois chiffres sur les réseaux sociaux. D'abord, le premier, donc, c'est 4,3 millions de messages publiés uniquement sur cette journée et soirée du premier tour. Donc c'est assez énorme. Pour la petite comparaison, c'est 8% de plus qu'en 2017. C'est aussi 280 posts par seconde au moment de l'annonce des résultats, donc à 20h04 dimanche 10 avril. Et ça, c'est 45% de plus qu'en 2017 au moment de l'annonce des résultats. Et c'est également 135 000 posts avec le hashtag « Je vote ». Par contre, là, c'est près de deux fois moins qu'en 2017.
L'abstention sur les réseaux sociaux donc, est très commentée, finalement.
J'y reviendrai peut-être un peu après si on aborde les sujets les plus commentés durant ce premier tour. Mais il est vrai que l'abstention a gagné du terrain sur les réseaux sociaux cette année.
Les réseaux sociaux, ce sont aussi des endroits où on aime prendre parti, hein, donner des positions. Et on sait que Twitter, notamment, est très clivant. Les gens n'hésitent pas à se lâcher un petit peu. Donc, on n'hésite plus maintenant à revendiquer son abstention, a priori. Hein. C'est quelque chose qui commence à rentrer dans les faits, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc, 4 millions de tweets, rien que pour la soirée électorale, la soirée du premier tour ?
Yes. Ouais, un peu plus de 4 millions, rien que sur cette journée et soirée du premier tour.
Ça fait du monde, quand même. Ça fait du monde qui tweet.
Oui, beaucoup de monde.
Alors, voilà, ça c'est des chiffres vraiment qui sont punchy, qui nous permettent de voir aussi le rôle des réseaux hein, sur ce genre de soirée, un petit peu d'événements, même au sens plus large. Hein. Ça intéresse évidemment beaucoup de personnes, beaucoup d'internautes, et donc les gens prennent la parole. Autrefois, c'était quelque chose d'assez tabou, hein, on ne prenait pas trop parti. Le vote était malgré tout assez secret, assez confidentiel, assez personnel. Aujourd'hui, on n'hésite plus à y aller et à revendiquer un candidat. Alors justement, Clémence, est-ce que tu peux nous dire les candidats qui ont fait le plus parler les internautes ?
Oui, alors quatre candidats ont fait beaucoup parler les internautes sur cette journée. Donc le premier, c'est Emmanuel Macron, avec 1,6 million de messages qui le citent ou qui le mentionnent, donc rien que sur lui. Après, c'est Marine Le Pen, 1 million de messages. Ensuite, c'est Jean-Luc Mélenchon, environ 800 000 messages. Et Éric Zemmour, environ 500 000. Donc les autres candidats au premier tour arrivent bien plus loin derrière. Et on remarque également que les volumes de postes finalement correspondent assez bien aux résultats dans les urnes. Mais on remarque aussi que sur cette journée en fait, de premier tour, la communauté de la France Insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon a été très très active. Parce que sur la journée, derrière Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon dont on parlait le plus. Et après, donc, la dynamique a changé quand il y a eu la soirée et les résultats. C'est Marine Le Pen qui est remontée. Mais voilà, c'était Jean-Luc Mélenchon juste derrière Emmanuel Macron qui faisait le plus de bruit.
Ah, ça, c'est intéressant sur les chiffres que tu donnes. Parce que finalement, on retrouve un peu le score des urnes.
Oui, tout à fait. Et à l'inverse, tu vois, tout au long de la campagne, on a eu énormément de mentions autour d'Éric Zemmour. Il faisait beaucoup, beaucoup parler de lui. C'était le candidat dont on parlait le plus après Emmanuel Macron. Et sur cette journée du premier tour, c'est pas quelque chose qu'on a ressenti, puisque tu vois, il est quatrième sur le classement des candidats dont on parle le plus.
Ouais, puis finalement, il décroche pas mal. Alors c'est vrai que si on a suivi un petit peu le résultat, on a vu aussi que Zemmour, pendant la campagne, il était très présent, il occupait beaucoup l'espace, beaucoup les conversations. Ça tournait souvent autour de lui. Et puis à la fin, on a vu qu'au niveau des résultats dans les urnes, il avait quand même perdu de cette dynamique. Ça se retrouve finalement en social media aussi. Hein. C'est intéressant.
Oui, un petit peu, bah, surtout sur cette journée de premier tour où visiblement Reconquête a été beaucoup moins actif qu'au début de la campagne.
Alors si on regarde les chiffres, Mélenchon fait moitié moins que Macron, hein, 800 000 Mélenchon, 1 600 000 Macron le soir du premier tour.
Oui, c'est ça.
Et Marine Le Pen, donc, elle se glisse entre les deux, hein, 1 000 000, c'est fort, hein, ça fait quand même, elle passe la barre du million quand même. Mais Emmanuel Macron.
Oui, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Et Marine Le Pen, elle faisait assez peu de bruit durant la campagne, puisque les candidats dont on parlait le plus, c'était beaucoup Emmanuel Macron. Forcément, c'est le président sortant, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et Marine Le Pen, avec le premier tour, elle est beaucoup, beaucoup remontée. Puisque finalement, on en parlait très peu au début de la campagne.
Alors, on sait qu'ils ont des véritables équipes aussi derrière. On sait qu'ils ont des community managers, des personnes qui pilotent, parfois des dizaines ou vingtaines de personnes qui sont chargées juste d'animer, de faire parler autour du candidat. Ils ont quand même, c'est un peu l'armée mexicaine aussi, hein. Ils ont une armée derrière eux, hein.
Oui, bien sûr, ils ont des équipes, forcément, des équipes numériques qui les aident à être présents quotidiennement sur les réseaux sociaux.
Est-ce que tu as noté des posts assez marquants, des choses qui ont été très, très repartagées, commentées, likées ?
Oui, complètement. Donc, ça dépend des réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple, le post qui a été le plus partagé, c'est un post, en fait, qui parle de Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce post, en fait, l'internaute reproche à la gauche de ne pas s'être rallié au candidat insoumis. Sur Facebook, c'est tout à fait autre chose puisque c'est un post de Marine Le Pen qui a été le plus liké. C'est tout simplement un post, en fait, où elle déclare être allée voter. Sur TikTok, pour le coup, là, on est sur une autre ambiance puisque c'est une vidéo humoristique où tu as un internaute qui dit être allé voter pour Jean Lassalle pour la blague, entre guillemets, qui a été la plus likée. Et sur Instagram, c'est une autre vidéo, mais cette fois-ci du média brut, dans laquelle on peut apercevoir Jean-Luc Mélenchon en train de déclarer « Vous ne donnez pas une voix à Marine Le Pen, à ses followers ». Une vidéo la plus likée sur Instagram.
Ok, je vous mettrai en bas de l'épisode des liens pour que vous puissiez voir, si vous le souhaitez, ces posts-là. Ils sont assez représentatifs, globalement, de la soirée, Clémence ?
Oui, hein, c'est-à-dire que... Ils sont plutôt bien représentatifs dans le sens où, en général, ils parlent de candidats dont on a beaucoup, beaucoup parlé sur cette journée et cette soirée de premier tour. Et ils sont aussi représentatifs de chaque réseau social, c'est-à-dire que sur TikTok, c'est un peu plus léger, un peu plus humoristique. Sur Twitter, c'est un peu plus grave, tu vois.
Comme souvent, évidemment. Plus clash, des fois, plus trash même aussi, parfois. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de candidats ont été mentionnés, tagués, interpellés. Et finalement, c'est quoi les thématiques qui ont généré le plus de conversations ?
Alors, il y en a plusieurs. D'abord, on a vu, comme sur la précédente présidentielle, le hashtag Radio Londres reprendre du service. Donc, pour la petite histoire, c'est un hashtag qui est utilisé par des médias étrangers, souvent belges ou suisses, pour communiquer sur les premiers résultats. Parce que les médias français n'ont pas le droit de le faire avant 20h. Donc les internautes se sont amusés à commenter les premiers résultats via ce fameux hashtag qui enregistre plus de 115 000 posts. Donc ça a été un des hashtags les plus partagés sur la journée du premier tour, à côté de présidentielle 2022, élections, etc. Et c'est aussi un hashtag qu'on retrouve qui est utilisé par les militants pour faire monter un peu leurs candidats. Et donc après, comme je te disais, sur cette journée, on a beaucoup parlé, c'est vrai, de Jean-Luc Mélenchon. Donc on a vu émerger des hashtags comme Mélenchon 2022, Dimanche je vote Mélenchon, même le hashtag Dimanchon, etc. Donc la communauté LFI a été très très active et on remarque en effet une progression de l'abstention avec beaucoup plus de messages en fait liés au hashtag Je ne vote pas. 8 fois plus qu'en 2017. Et à l'inverse, le hashtag Je vote, avec ses 135 000 posts, a été 2 fois moins utilisé qu'en 2017, alors que globalement, on a plus de messages sur le premier tour que dans la précédente présidentielle.
Ouais, ce qui permet quand même de voir quelques mouvements de société, quand même, quelques tendances hein, qui se dessinent. Par rapport à ça, l'abstention hein, qui était forte encore une fois sur cette élection. Est-ce que du coup, vous avez coupé la veille là où vous êtes toujours actif, vous êtes toujours en social listening sur les candidats ou pas ?
Alors, on a toujours notre sujet de veille qui tourne. Pour le moment, on n'a pas encore trop regardé. On le fera pour le débat de l'entre-deux-tours et pour le second tour aussi, voir comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce que c'est commenté.
Ouais, il n'y aura pas le dimanchon, là, parce que c'était pas mal, ça, ce hashtag. C'est dimanchon, c'est ça? Ouais, bien vu, hein, je ne l'ai pas vu.
Oui. Il y en a eu beaucoup hein, sur Mélenchon, mais aussi sur d'autres candidats. Hein. Ce n'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de hashtags liés à Éric Zemmour aussi, un petit peu sur Macron. Alors parfois, pas toujours des hashtags positifs, mais bon, il est arrivé quand même premier au premier tour, donc c'est pas toujours représentatif.
Est-ce que, justement, vous avez peut-être vu des candidats qui étaient un peu clivants? Est-ce qu'il y avait certains candidats qui centralisaient un petit peu beaucoup de commentaires négatifs? Il y a des tendances comme ça qui sont dessinées ou pas?
Alors forcément, Emmanuel Macron, qui est le président sortant, a essuyé pas mal de commentaires négatifs. Mais aussi des positifs, ça c'est vrai qu'on le souligne pas beaucoup, mais par exemple les hashtags 5 ans de plus ou hashtag avec vous, ce sont des mouvements plutôt pro-Macron qui finalement sont assez actifs aussi sur les réseaux sociaux.
D'accord, ouais, bah comme ça on va suivre l'approche du deuxième tour, là aussi on va rester en veille nous aussi sur les réseaux sociaux. Alors le meilleur réseau social pour ça c'est Twitter évidemment, c'est le seul qui permet vraiment de suivre l'actu un petit peu de près hein, en temps réel.
Exactement. C'est vrai que sur Twitter, la politique est très très commentée, particulièrement dans le cas d'une élection présidentielle.
Ouais, c'est d'ailleurs le réseau social que vous avez. Enfin, là, quand vous avez fait le social listening, vous avez été multiplateforme. C'est ça, vous étiez partout.
Ouais. Oui, on a analysé plusieurs plateformes. On a analysé donc principalement Twitter, comme on vient de le dire, mais aussi Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, parce que les candidats maintenant ne sont plus uniquement présents sur Facebook ou Twitter, ils sont aussi très présents sur TikTok ou sur YouTube en vidéo. Donc ça nous paraissait important d'analyser aussi ces réseaux-là.
Et la plateforme qui a concentré le plus de réactions et commentaires, c'est Twitter, évidemment.
C'est largement. Twitter à 95%,
ouais,
largement. Okay.
Donc si vous voulez suivre l'actu en temps réel, notamment de la présidentielle, vous savez où ça se passe. Clémence, du coup, alors il y a beaucoup de mentions sur les candidats, il y a beaucoup de mentions même simplement dans le spectre de la présidentielle, l'abstention, etc. Alors avec des commentaires positifs, négatifs, chacun s'exprime un peu, surtout sur Twitter. Est-ce que déjà, alors on aimerait, on rêve de ça, d'avoir presque le score du second tour qui apparaîtrait sur Twitter. J'imagine que c'est difficile, mais est-ce que déjà on voit des tendances, on voit un des deux candidats qui ferait plus parler que l'autre à l'approche du second tour?
Oui, alors depuis dimanche 20h, donc depuis le résultat, c'est Emmanuel Macron qui fait le plus parler, près de 3 fois plus de messages que sur Marine Le Pen. Donc affaire à suivre dimanche 24 avril.
Ouais, on va suivre ça et beaucoup de commentaires. Alors du coup, c'est le président Macron qui centralise plus, 3 fois plus. Mm-hmm. Alors est-ce que tu as l'info, ou du moins la data, qui permet de voir si c'est des tonalités plutôt positives ou négatives?
Alors il y a un peu de tout. Il y a aussi des messages un peu plus nuancés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément pro-Macron, mais qui incitent à aller voter pour le candidat pour ne pas que l'extrême droite remporte la bataille. Mais il y a un peu de tout. Et puis c'est comme sur Marine Le Pen, il y a aussi des messages très positifs sur elle. Donc ça dépend.
Bon, bah écoute, affaire à suivre, on peut pas malheureusement aller plus loin dans le décryptage parce que là, ça reste de la projection hein, et on veut surtout pas donner des mauvaises informations qui pourraient s'apparenter finalement à des consignes de vote.
Bien sûr, et puis les réseaux sociaux sont très bien pour prendre le pouls à un instant T de ce que les gens peuvent penser, mais à aucun moment ils ne remplacent les sondages.
Ouais, c'est clair. Et même si les sondages ne sont pas toujours efficaces, oui. Mais ces derniers temps, ils ont été plutôt pas mal. Hein. On a eu des résultats plutôt fiables. Ouais. Merci Clémence, en tout cas, pour toutes ces précisions.
Eh bien, je t'en prie.
Bon, alors, si vous voulez en savoir plus sur VisiBrain, je vous invite à aller sur visibrain.com. Voilà, vous aurez la plateforme avec l'outil hein, qui pourra vous être présenté.
Exactement. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où on est nous-mêmes très actifs.
Ouais, vraiment, je vous encourage. Suivez le compte Twitter de VisiBrain. Il est vraiment pas mal parce que justement, toutes les infographies, ces études qui sont vraiment super pertinentes, elles sont partagées régulièrement. Allez voir, vous allez voir, il y a de la super data. Et puis, si vous voulez connaître l'outil, je vous mets un lien aussi en bas de cet épisode. Vous pourrez aller voir cet outil de social listening qui peut peut-être vous sortir parfois une grosse épine du pied si vous êtes une marque. Plutôt parfois d'avoir à gérer un bad buzz, c'est toujours mieux de pouvoir l'anticiper. Merci Clémence.
Merci Fabrice.
Eh bien écoute, au plaisir de t'accueillir une prochaine fois hein, pour l'empreinte digitale.
Merci beaucoup.
Et puis on reste au courant, au fait, là, pour le deuxième tour alors.
Tout à fait, rendez-vous le 24 avril.
Allez, rendez-vous le 24 avril. Allez, salut Clémence.
Salut.
Voilà, merci à tous de votre écoute. Donc rendez-vous hein, dans quelques jours pour le tome 2, hein, le deuxième volet, donc la suite de cette élection présidentielle. Peut-être que vous écouterez ce podcast un petit peu plus tard et peut-être que l'élection sera déjà terminée. On aura déjà le nom du nouveau président ou de la nouvelle présidente en fonction des résultats des urnes. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, @l'empreinte digitale. N'hésitez pas à commenter cet épisode ou à donner votre avis, hein, c'est le principe aussi des élections. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à me contacter par email hello@l'empreinte digitale.com si vous souhaitez échanger sur ces thématiques ou peut-être me proposer d'autres thématiques d'épisodes. Et puis enfin, pour être complet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous allez sur l'empreintedigitale.com, tout en haut sur newsletter. Vous serez tenu informé des prochains épisodes, notamment quand on va parler du deuxième tour des élections présidentielles. Et puis, vous savez que vous pouvez bien entendu laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao !